Suzy sur les chemins de l'agroécologie.
De retour en Normandie. J'ai décidé de me rendre au jardin de demain à vélo depuis Caen, en longeant la côte. Une montée de l'enfer me pousse à descendre de mon vélo et à le pousser sur une portion de chemin. Dans ces moments-là, je me demande vraiment pourquoi j'ai décidé de faire ça à vélo. Et en même temps, je trouve que ça donne une temporalité au voyage. Et le sentiment de satisfaction à l'arrivée est réel. Le jardin de demain, c'est Guillaume qui l'a créé en 2017, sur presque 3 hectares de la ferme achetée par ses grands-parents, en 1971. La ferme est très diversifiée. Les parents de Guillaume, Gilles et Florence, y travaillent en tant qu'éleveurs. Marie, Valentin, Jonas et Guillaume travaillent dans le jardin, où foisonnent des légumes, des fruits et des poules, au milieu des haies et des arbres. On retrouve aussi à la ferme un atelier de transformation de légumes en soupe et autres recettes que Marie cuisine et met en bocaux. Et une fromagerie où Inès transforme le lait de la ferme en beurre, fromage et autres délicieux produits que j'ai pu goûter lors de mon séjour. Le tout est vendu au magasin de la ferme. Ma venue à la ferme s'est faite un peu par hasard. Guillaume était présent aux rencontres de maraîchage sol vivant en Alsace et j'ai eu envie de venir découvrir sa ferme. Est-ce que tu peux te présenter ?
Ouais. Je m'appelle Guillaume Alewin. J'ai 33 ans. J'aime la nature, les gens et la vie. Et je suis paysan, maraîcher en ce moment, bientôt éleveur et mais paysan pour sûr, quoi. Je serai paysan toute ma vie et c'est ma mission sur Terre que de nourrir les gens puis de prendre soin de la nature. Et la paysannerie, je pense que c'est ça le projet, quoi. Puis je suis un optimiste, curieux, exigeant, mais joyeux, je pense. Enfin, en tout cas, j'ai envie de l'être, quoi. C'est mon projet.
J'ai demandé à Guillaume comment il décrirait l'esprit et les valeurs du jardin de demain.
Le jardin de demain, aujourd'hui, je pense que c'est un lieu qui est collectif. Et c'est peut-être la première caractéristique, c'est un lieu qui respecte le vivant, qui essaie de mettre la nature dans de bonnes conditions pour produire la nourriture. Donc il y a un gros pôle nourricier, quoi. Pour nous, c'est important de nourrir pas mal de gens, quoi. Et puis je pense que c'est un espace d'échange et d'accueil, tout en ayant une ambition d'efficacité et de productivité. C'est peut-être ce qui nous caractérise, et évidemment en agriculture biologique.
On retrouve sur la ferme le tiers-lieu de l'arbre, qui a ouvert ses portes en 2021 et accueille des événements et des gens de passage.
Le tiers-lieu, ça a pour vocation de faire encore plus d'échanges et encore plus de sensibilisation. Je ne sais pas si c'est vraiment un mot qu'on utilise beaucoup ici, mais plutôt de partage et de grandir ensemble, quoi, par le fait de se mélanger et de faire des projets ensemble, quoi.
Comme c'est la thématique de ma mission, j'ai posé la question à Guillaume. Au fond, c'est quoi l'agroécologie ?
Pour moi, l'agroécologie, c'est utiliser les caractéristiques de la nature pour produire de la nourriture, donc la mettre dans les meilleures conditions possibles, quoi. Donc ça implique pour moi zéro chimie. Donc l'agroécologie aujourd'hui, c'est un mot qui est utilisé à toutes les sauces et notamment beaucoup dans le monde conventionnel. Et pour moi, c'est juste antinomique, quoi. Mais ça veut aussi dire aller vers, par exemple, moins en moins de travail du sol. Donc ce débat entre le glyphosate et le labour, il me touche. Moi, j'ai fait le choix de zéro chimie, quoi. Donc pas de glyphosate. Et je pense que si on était beaucoup à le faire, la recherche avancerait beaucoup plus vite et on arriverait à le faire, quoi. Donc pour moi, c'est un vrai faux débat de dire on n'a pas les solutions, donc on peut pas le faire, quoi. Si tout le monde se donnait les moyens de le faire et qu'on arrêtait de mettre des sous dans la chimie, dans l'agro-industrie, potentiellement, on arriverait tout à fait à trouver des solutions, à développer des outils nécessaires pour travailler. Et on le fait avec l'association des décompactés de l'ABC, où on voit que bah, ça avance, qu'il y a des paysans qui ont des bonnes idées, il y a des paysans qui arrivent à développer des outils, et que bah, nous, notre but chez Décompacté de l'ABC, c'est de mettre ça en réseau et puis de le partager pour qu'il y en ait de plus en plus qui puissent le faire bien. Donc l'agroécologie, bah, c'est aussi pour moi faire une place au sauvage, à la biodiversité, qui a forcément un intérêt pour la production agricole. Et là, je pense par exemple au nichoir qu'on a fait, c'est un exemple qui est assez bateau, mais en vrai, c'est vrai quoi. Une mésange dans un système agricole, tu te dis, mais qu'est-ce que tu peux bien en faire quoi. Et en réalité, la mésange, elle a un rôle quoi. C'est le cas du ver de terre, des nématodes, des bactéries, des champignons, des. Enfin, tu vois, de plein de trucs que de base on n'élève pas parce qu'on n'a pas d'intérêt direct à les bouffer, à les. Enfin, tu vois. Et en réalité, bah, ça. Ça fait partie du système et ça fait que à la fin la nourriture elle est disponible, on est capable de la récolter. Donc pour moi l'agroécologie c'est indispensable et c'est une évidence quoi.
J'ai pu voir aussi pendant mon séjour un peu l'engagement écologique que vous portiez. Qu'est-ce que toi ça t'apporte dans ta vie quotidienne, cet engagement
C'est peut-être une des sources de satisfaction principale dans mon quotidien, quoi. De me dire que j'essaye d'avoir l'impact le plus faible quoi, sur mon environnement pour laisser la Terre aux générations suivantes. Au moins aussi bien que ce que je l'ai reçu de mes parents et de mes grands-parents. C'est une évidence. C'est une évidence aussi parce que je suis catholique et parce que j'ai un respect pour la création et pour la terre qui nous a été confiée, quoi. Et ça, c'est vachement important pour moi, quoi. Donc tout ça, c'est un tout qui fait que c'est une évidence. Et après, bah, il reste qu'on vit dans une société où c'est pas une évidence pour tout le monde. Et que forcément, tu te retrouves des fois dans des situations où bah, ça devient une contrainte parce que les autres l'ont pas, quoi. Si on jouait tous avec les mêmes règles du jeu, il n'y aurait pas de sujet, tu vois. Mais quand toi, tu vas faire 4 heures de train pour arriver à un endroit où tu peux aller en 1h30 en voiture, bah forcément, tu t'organises différemment et il faut faire des choix, quoi. Pour moi, c'est des choix et choisir, c'est pas renoncer, c'est avancer, quoi. Donc je fais ça au quotidien et j'imaginerais pas faire autrement que d'essayer de faire le mieux que je peux de ce qui m'est donné quoi. Donc c'est plus une source de bonheur qu'une panoplie de contraintes quoi, clairement.
Parce que moi l'exemple qui m'a marqué c'était les ficelles dans la serre. Où c'est pas forcément une évidence pour tout le monde de du coup réutiliser les ficelles et de prendre le temps de les mettre, de les enlever, alors qu'il y a des maraîchers qui juste les coupent.
Ouais, bah les grillages, enfin les filets, nous on a plus de filets plastiques, c'est que des filets métal, des trucs qu'on réutilise. Pourtant, je suis très très sensible à l'efficacité au travail, comme je disais au début, à la rentabilité, mais ça c'est. Bon. Chacun fait ses compromis. Quand t'es paysan, tu fais des compromis à longueur de journée. Parce que forcément, il y a des choses où on perd du temps. Mais pour moi, c'est inconcevable de devoir faire 3 tours à la déchette dans l'année pour jeter les déchets que t'aurais produits pour produire de la nourriture. Enfin, ça, pour moi, aucun sens, quoi. Donc, j'ai toujours, depuis les 8 ans que je suis installé, quoi, j'ai toujours essayé de diminuer les déchets et de maximiser la durabilité de l'équipement. Plus en plus, quoi, ça s'accumule. L'année dernière, on a acheté une rallonge trifasée pour pouvoir passer les serres au Karcher. Les gens normaux, ils pulvérisent de l'antimousse sur la bâche pour essayer de la faire vivre plus longtemps. L'antimousse, c'est une catastrophe écologique majeure. Et donc, nous, on est monté sur le faîtage du tunnel, à genoux, sur la barre centrale, et puis on s'est tapé les tunnels au Karcher. Bon. C'était notre solution pour continuer à produire de manière efficace et en même temps que ce soit productif quand même quoi, qu'il y ait de la lumière dans les tunnels et que les trucs ils poussent quoi. Bon, c'est un petit exemple, mais ouais, pour moi, c'est une évidence de trouver des solutions pour essayer de limiter notre impact.
Il y a une petite anecdote qui m'a marquée, c'est quand je coupais des poireaux une fois, il y a Jonas qui m'a dit « Attends, voilà, faut que le poireau il ait telle forme ». Donc j'ai appris à couper selon l'esthétique du poireau. Et je me suis dit « Tiens, c'est marrant, à quel point vous, en tant que maraîcher, vous êtes impacté un peu par l'exigence esthétique des consommateurs ?»
Eh ben... Nous, on a la chance de faire 100% de vente directe. On a un petit peu de vente à la Biocoop, donc là, on a un peu plus de normes. Et en même temps, bah, tu vois, le poireau, pour la Biocoop, on en a fait avant-hier, hier. On fait le même poireau qu'ici. Il a pas de racines. Et c'est OK, tu vois. Et à côté de ça, tu as le contre-exemple, tu vois, du chou-fleur, où nous, on sait pas couvrir un chou-fleur avec des feuilles, là, et garder les feuilles autour du chou-fleur. Ça, nous, on sait pas le faire. Ils ont des remarques à la Biocoop. La chance qu'on a en vente directe ici, c'est que en fait, c'est moi qui ai posé au démarrage, quoi, qui ai posé les références esthétiques entre guillemets. Et donc du coup, forcément, j'ai probablement laissé des mangeurs sur le bord de la route qui se sont pas retrouvés dans les choix que je faisais. Mais moi, ma philosophie, c'était de dire tant que c'est bon, donc non, tant que c'est bon nutritionnellement parlant, tant que c'est bon gustativement parlant. Et qu'il n'y a pas une perte en cuisine par des soucis de trop d'épluches ou quoi, enfin que ça reste raisonnable par rapport à ce que les gens peuvent en tirer, bah, le légume il a sa place sur mon étal, quoi. Et du coup, ça fait qu'on vend des carottes d'un kilo, qu'on vend des choux fleurs coupés en deux, tu vois. On fait des trucs que la grande distribution ne ferait jamais et que les gens potentiellement n'ont jamais vu ailleurs que chez nous. Donc on voit les gens devant l'étal qui s'esclavent de voir la forme de la carotte ou la couleur du chou-fleur. Et il fut un temps je faisais des chou-fleurs verts, des chou-fleurs violets. Ça, on a abandonné parce qu'au final, les gens ne les mangent pas. Il y a quand même des trucs, tu vois, qui nous ont impactés et où on a dû resserrer un peu la gamme alors que nous, ça nous parlait, quoi, d'essayer de montrer la diversité du vivant. Mais on a la chance d'être en prise directe avec les gens, de pouvoir leur expliquer et de pouvoir vendre des pommes moches et flétries mais excellentes jusqu'à mi-avril et puis de ne pas avoir à faire tourner le frigo, tu vois. Mais si tu n'expliques pas aux gens que cette pomme-là, elle a un bilan carbone fabuleux, tu vois, et qu'elle est bonne et tu ne la fais pas goûter, ben en fait, les gens ils passent à côté de la pomme, ils ne comprennent pas pourquoi même on l'a présentée, tu vois. Mais on en vend toujours.
Ça, c'est une des choses qui m'a marquée au Jardin de Demain. C'est leur engagement et leur dévouement pour proposer des produits de qualité à leurs clients. Et du coup, je suis allée interroger l'un d'entre eux. Qu'est-ce qui vous pousse à venir acheter ici ?
Eh ben, c'est donc la proximité. Et puis le fait que ce soit un circuit direct entre le producteur et le consommateur. Voilà. Par ailleurs, on connaît les gens qui produisent. On sait ce qu'ils font puisqu'on a visité l'installation. C'est un gage de qualité. Voilà. On sait ce qu'on mange. C'est des produits qui sont sympathiques à cuisiner, parfois originaux, puisqu'on ne trouve pas forcément la même chose en grande surface. Il y a des produits qu'on ne trouve pas. Voilà aussi. Voilà.
Est-ce que tu aurais une citation à partager ?
Faut choisir là du coup.
Faut choisir.
Peut-être une qui me touche particulièrement. Je vais en donner deux, je pense. Peut-être trois. Une qui me touche, c'est l'exemple, c'est pas la meilleure manière de convaincre, c'est la seule. Donc moi, j'ai l'ambition juste d'être un exemple et de faire des choses qui sont en cohérence avec ce que je pense, avec ma philosophie. Puis après, viens picorer dans ce que je fais, qui veut, quoi. Et donc, c'est aussi pour ça que c'est une ferme qui est ouverte et qui partage, puis qui va voir chez les autres, quoi. Parce que je pense que l'exemple, c'est une super manière de progresser, quoi. Et puis, une de Pablo Servigne. L'utopie a changé de camp. Est aujourd'hui utopiste celui qui pense que tout peut continuer comme avant. Je pense qu'il est urgent de mettre ça dans les grands titres des journaux, quoi, et qu'il va falloir réfléchir à faire évoluer la société si on veut que la société perdure et si on veut que les gens continuent à être heureux, quoi.
Je n'aurais pas pu mieux conclure. Les 2 semaines que j'ai passées au jardin de demain m'ont appris plein de choses. C'était pas évident parce que la fatigue était bien présente en ce mois de novembre et le rythme du jardin intense. J'ai aimé découvrir la pluralité entre la ferme et le tiers-lieu. Je retiens surtout l'engagement de Guillaume et de toutes les personnes présentes. J'aurais même vécu une journée de neige en Normandie. Le lieu n'avait jamais accueilli en woofing et après discussion, Guillaume m'a dit qu'il ne se retrouvait pas forcément dans ce modèle. Ce que je peux aussi comprendre, vu le rythme de travail qu'il y a à la ferme et la difficulté de le suivre en venant de l'extérieur. En tout cas, je remercie toute l'équipe du tiers-lieu et du jardin pour l'accueil. Merci de m'avoir permis de vivre cette immersion. En espérant que l'arbre pousse toujours plus haut.